le magazine des Nations Unies.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce magazine dont voici les titres. Dimanche 15 mai, la date est consacrée dans les arènes des Nations Unies à la famille. C'est donc la journée internationale de la famille. Pour cette année, l'événement est placé sous le thème « Famille et urbanisation », un thème qui vise à sensibiliser le public à l'enjeu familial de politiques urbaines durables et favorables. Dans cette édition, l'importance de cette journée et son historique. Nous irons dans la partie nord-ouest de la République démocratique du Congo avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Au sud du Bangui, le HCR a repris les opérations de rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains avec un premier convoi parti lundi dernier et constitué des réfugiés du camp Molé, situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Zongo. Près des personnes, le phénomène est mondial et n'épargne pas la RDC où des pratiques assimilables à différentes formes de ce phénomène gagnent en ampleur sur toute l'étendue du pays, ce qui justifie le plaidoyer avec l'APLTP, Agence pour la prévention de la lutte contre la traite des personnes, engagée auprès des parlementaires congolais avec l'appui technique et financier de l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Ce sont les principales nouvelles de ce magazine. Merci de nous prêter votre attention.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Une fois encore, bonjour. Famille et urbanisation, tel est le thème de la Journée internationale de la famille, célébrée le 15 mai de chaque année. Un thème dont l'objectif est de sensibiliser le public à l'importance des politiques urbaines durables et favorables à la famille. Alors, pourquoi les Nations Unies ont-elles proclamé cette journée et quel est son historique? Réponse dans cet élément de Sarah Sumbela.
C'est au cours des années 1980 que l'ONU s'est de plus en plus intéressée aux questions touchant à la famille. En 1983, le Conseil économique et social a adopté une résolution sur le rôle de la famille dans le processus du développement. Cette résolution priait le secrétaire général de l'ONU de promouvoir auprès des décideurs et du public une meilleure connaissance des problèmes et des besoins de la famille, ainsi que de moyens efficaces pour y faire face. Deux ans plus tard, en 1985, une résolution a invité l'Assemblée générale de l'ONU à étudier la possibilité d'inscrire à son ordre du jour une question sur les familles dans les développements. Plus tard, le 7 décembre 1987, sur recommandation de la Commission du développement social, l'Assemblée générale adoptera une autre résolution dans laquelle elle invitait tous les États à donner leur avis sur la proclamation éventuelle d'une année internationale de la famille. Et c'est 1994 que l'Assemblée générale proclamera l'année internationale de la famille dans sa résolution du 9 décembre 1989. Une année plus tôt, c'est-à-dire en 1993, dans sa résolution A/RES/47/237, la même Assemblée générale de l'ONU avait déjà proclamé le 15 mai de chaque année Journée internationale de la famille. L'objectif de cette journée, mieux faire connaître les questions liées à la famille et accroître la connaissance des enjeux sociaux, économiques et démographiques qui les affectent. En marge de la célébration de cette journée cette année, un document sur l'impact de l'urbanisation et de la migration sur les familles devrait être publié vendredi 13 mai 2022.
La RDC n'est pas épargnée par la traite des personnes, un phénomène mondial qui consiste en un processus par lequel des personnes sont placées ou maintenues en situation d'exploitation sous diverses formes à des fins économiques. Tous les pays du monde sont ainsi engagés dans la lutte pour démanteler les réseaux de trafiquants impliqués dans ce phénomène et venir en aide aux victimes. En RDC, en plus de la création par le président de la République le 22 avril 2019 de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, APLTP en sigle, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres le 12 décembre 2021 le projet de loi portant sur la prévention et la répression de la traite des personnes. C'est autour de ce projet de loi que l'APLTP a organisé jeudi 12 mai 2022 à Kinshasa un atelier de plaidoyer des destiné aux parlementaires. Jeff Opila a suivi cet atelier et tendu son micro respectivement au coordonnateur adjoint de l'APLTP, à la députée Christelle Vuanga et à un avocat qui se sont exprimés sur l'intérêt du plaidoyer autour du dit projet de loi.
Moi, c'est M. Guy Bao et Bamou, coordonnateur adjoint de l'Agence pour la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'atelier pour le plaidoyer par rapport au projet de loi qui est en discussion au sein du Parlement. L'agence essaye, à travers ce plaidoyer, aussi de faire le travail de la prévention et de la sensibilisation qui fait partie de l'objet de notre mission. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là. Nous avons invité les ONG, la société civile, les différents partenaires, ainsi que les députés pour nous permettre à ce que ce plaidoyer soit une grande réussite, en ce que tout le monde puisse participer dans la sensibilisation et dans l'aboutissement de ce projet de loi qui va permettre à la RDC de quitter, par rapport à la cotation internationale, la zone à risque à une zone où nous serons plus ou moins acceptables par rapport à la coopération avec d'autres États.
Moi, j'ai toujours manifesté ma disponibilité, j'ai participé aux ateliers de l'agence. Je sais que la matière était abondante et importante, mais pour avoir quelque chose d'efficace, il faut une proposition de loi, il faut passer par l'Assemblée nationale. Et comme l'honorable Lucas l'a dit, réfléchissons sur une loi spécifique, c'est la meilleure occasion. En tout cas, en ce qui me concerne, je pense qu'une loi spécifique, c'est la meilleure.
Je suis en train de louer les efforts de l'agence ainsi que de ses partenaires par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais il y a toujours un problème. Le problème, c'est quoi? S'il n'y a pas vraiment une loi claire et qui n'a pas de moindre doute, je crois que c'est dans ce cadre-là qu'on peut vraiment bien évoluer pour réussir. Puis c'est la façon dont on définit actuellement des traites. Il y a beaucoup d'aspects qui parfois, dans la loi actuelle, on n'a pas vraiment tenu compte de ça. Or, il y a un principe légal qui nous dit « in dubio pro reo ». Donc, doute profite à l'accusé. Donc, lorsqu'il n'y a pas des éléments clairs, en tout cas, cela va nous compliquer pour essayer de poursuivre de façon claire ces délinquants.
Nous l'avons dit dans le sommaire, il y a eu reprise depuis le lundi 9 mai dernier des opérations de rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains du sud d'Ubangi, avec une première vague de ceux du camp Molé, situé à environ 35 km de la ville de Zongo, ainsi que de celui de Boyabou dans le territoire de Libengue. Au total, plus de 9000 candidats à ces opérations se sont déjà manifestés. Mais pour la première phase, 3250 personnes, en majorité du camp de Molé et Boyabou, sont concernées. D'autres détails avec Jean-François Mouya.
C'est le bureau du HCR Gbadolité qui a fait parvenir la nouvelle à Radio Okapi. C'est vers 11h lundi 9 mai, selon la source, que le convoi test a quitté le port de Maba à Zongo pour Bangui, avec à bord 92 passagers de 55 ménages dont la plupart étaient arrivés à Molé depuis 2013. La confirmation des intentions s'est poursuivie cette semaine dans les deux camps par les équipes du HCR et de la CNR pour la suite des opérations de rapatriement. En dehors de Bangui, la capitale centrafricaine, les autres zones d'accueil des rapatriés sont Lobaé et Ombela-Mpoko, des contrées jugées sécurisées. En principe, deux convois de 250 passagers sont prévus par semaine pour le camp de Molé-Zongo et deux convois de 400 personnes chaque semaine pour Boyabou. Des mesures appropriées ont été prises pour prévenir la propagation des maladies à potentiel épidémique dont le COVID-19 tout au long du processus de rapatriement. Les autorités sanitaires du sud Ubangi ont mis à la disposition du HCR des tests et des vaccins contre cette maladie, la rougeole et la fièvre jaune. Les réfugiés qui rentrent chez eux bénéficient également d'un transport décent, de quelques articles ménagers essentiels ainsi que de la délivrance de documents civils dont les certificats de naissance et des pièces de fréquentation scolaire. L'objectif pour le HCR, c'est d'appuyer le rapatriement de 20 000 réfugiés centrafricains cette année en collaboration avec les gouvernements de la RDC et de la RCA selon la disponibilité de ces ressources. Ces mêmes opérations ont été déjà organisées en 2019, 2020 et 2021 dans les provinces du Nord et Sud Ubangi et où un total de 10 694 réfugiés centrafricains avaient regagné la mère patrie dans des conditions dignes et sécurisées, à la suite de l'accord tripartite HCR-RDC-RCA signé en juillet 2019. Dans son mandat de protection et d'assistance aux réfugiés, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés propose des solutions durables aux problèmes de personnes forcées de fuir leur foyer et de franchir une frontière internationale pour leur permettre de rebâtir leur vie.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Environ seulement 5% des financements des actions humanitaires passent par les acteurs locaux. Ceux-ci sont souvent préjudiciés par les critères d'éligibilité élaborés par les bailleurs. Conséquence, l'impact de la plupart des projets reste discutable. Il faut donc changer de philosophie. C'est à quoi s'est engagé l'ONG internationale Street Child qui a organisé à Goma un atelier pour mettre cette question sur la table. Dans cette édition, le magazine des Nations Unies revient sur l'entretien que le directeur régional de Street Child, Jean-Claude Bakwabaya Muhindo a accordé à Honoré Missinga Kalala.
Jean-Claude Muhindo, bonjour.
Bonjour, monsieur Honoré.
En gros, c'est quoi Street Child, une ONG des droits de l'homme, une organisation humanitaire, et quelle est sa couverture géographique?
Street Child, c'est une organisation internationale des droits britanniques. C'est pourquoi nous nous appelons Street Child UK. Alors, nous sommes actifs dans plus de 21 pays au monde, notamment les pays les plus affectés par les conflits multiformes, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Pour la RDC spécifiquement, c'est pratiquement plus de 15 ans que nous sommes actifs en RDC, mais notre approche a toujours été de travailler à travers les ONG dites locales.
Vous êtes en RDC, ça fait 15 ans, mais vous couvrez aussi le Burundi, je vois aussi à la République centrafricaine.
Absolument. Donc, mon rôle hein, en tant que directeur régional pour la région des Grands Lacs, effectivement, donc nous couvrons la RDC, le Rwanda, le Burundi, et depuis un moment aussi la République centrafricaine, où d'ailleurs nous irons pratiquement pour une autre conférence débat, précisément le 15 mai.
Venons-en maintenant à l'atelier lui-même. D'abord, qu'est-ce que vous entendez par la localisation dans l'action humanitaire?
Alors, la localisation dans l'action humanitaire, c'est un concept émergent qui vient pratiquement de ce qu'on appelle aujourd'hui les grands baguennes. Donc, les résultats du plus grand sommet humanitaire mondial qui a eu lieu à Istanbul en 2016, qui a réuni certains des grands bailleurs humanitaires, certains membres des gouvernements donateurs, les ONG internationales, en tout cas les plus connues, hein, les agences des Nations Unies. La clé de voûte autour de leur discussion dans les sommets, c'était comment nous assurer qu'il y a beaucoup plus de financement entre les mains des plus vulnérables, c'est-à-dire de ceux qui sont véritablement sur terrain. Et ça, c'était donc une recommandation du groupe de travail de ce sommet-là, qui se sont engagés collectivement, que désormais, il faut qu'au minimum autour de 25% de financement humanitaire soit entre les mains de ces acteurs locaux qui sont les premiers sur terrain. Parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'impact dans les actions humanitaires, ça reste un tout petit peu discutable. Maintenant, là, la décision a été prise que non, c'était vraiment un engagement. Il faut absolument essayer un peu de créer ce paradigme où il y aura beaucoup plus de financement entre les mains de ces ONG. Parce que lorsqu'il y a des crises humanitaires, elles sont parfois les premières sur le front. Et nous, les grandes ONG, nous venons parfois avec retard, 2 mois après, 3 mois après, 6 mois après. Mais si vraiment on doit sauver les vies, c'est immédiatement. Et ceux qui sont dans les communautés, ceux qui sont issus des communautés, sont, à mon avis, les mieux indiqués pour commencer à aider, peut-être même à élargir l'action humanitaire dans des zones où les internationales ne peuvent pas nécessairement arriver.
Donc, l'idée, c'est que pour qu'il y ait plus d'impact des actions humanitaires, il faut impliquer les acteurs locaux.
Absolument, absolument. On ne dit pas que les ONG internationales n'ont pas d'impact, mais on aura beaucoup plus d'impact si nous essayons d'arrondir nos angles en renforçant les capacités des acteurs locaux, de sorte qu'elles soient en mesure d'aller plus loin que nous. Parce que naturellement, elles peuvent aller plus loin que nous. Elles sont plus acceptées dans les communautés que les grandes ONG parce qu'elles sont naturellement ici des communautés.
Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur les objectifs que se fixe votre ONG en organisant cet atelier?
C'est une activité d'un projet triennal de Street Child qui est l'un des leaders radicaux dans la localisation. Pourquoi ça? Parce que avec beaucoup d'autres organisations, il y a quand même une sorte de prise de conscience qu'on doit changer les choses parce que voilà, ça fait maintenant pratiquement 6 ans depuis ces sommets dont j'ai évoqué nos évaluations qui nous ont poussés à développer ces grands projets, nous ont montré que malgré les engagements, malgré les bonnes intentions, en réalité, la communauté humanitaire n'a pas avancé dans la localisation. Notre évaluation nous a montré que 99% des propositions, des projets qui sont soumis au BAER et même acceptés mentionnent le mot localisation. Disent nous appuyons les acteurs locaux. Mais en réalité, dans la pratique, c'est pas vraiment ce qui se passe. Parce qu'on a à peine démontré que seulement 5% des financements entrent ou touchent ou arrivent entre les mains de ces acteurs qui sont véritablement au front plus que les acteurs internationaux. Et du coup, si pendant 6 ans, c'est difficile d'arriver à 20-25%, non, il faut un réveil sérieux, il faut une prise de conscience. Et donc, c'est autour de ça, maintenant, que cette activité veut réunir encore et mettre ensemble tous ses partenaires, rediscuter de la question, parce que nous venions déjà de réaliser un travail de fond sur le diagnostic institutionnel de plus de 40 organisations locales, dont 20 en RDC, où nous avons, d'une façon plus détaillée, touché tous les aspects organisationnels qui feront qu'une organisation soit véritablement appelée une organisation forte. Nous avons identifié des faiblesses, nous nous sommes donc même approchés des ONG internationales pour comprendre quels sont les goulots d'étranglement. Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à décoller dans ce secteur? Alors, cet atelier donc veut remettre encore la question sur la table pour que nous nous questionnions maintenant sur l'après. Que devrions-nous faire collectivement pour commencer quand même à avoir des résultats dans ce sens, avoir des ONG locales qui commencent à accéder librement au financement sans nécessairement avoir à être conditionnés par des critères qui sont parfois rendus hyper compliqués pour eux parce que naturellement étiquetés à faible capacité. C'est autour de ça que nous aimerions réunir tout le monde et rediscuter, dire que devrions-nous faire, de sorte que d'ici quelques années, nous soyons en mesure de dire, voilà, il est possible de faire confiance à ces ONG nationales lorsqu'elles sont formées, lorsqu'elles sont capacitées en tant qu'institution. Elles peuvent amener nos actions beaucoup plus loin que lorsque nous essayons de les faire nous-mêmes.
Jean-Claude Mouindo, merci.
En tout cas, c'est moi qui vous remercie pour ce temps.
En plus bref, un numéro vert commis par la MONUSCO au village du Kabarole dans le territoire d'Irumu pour des alertes en cas de menace contre les populations civiles. Ce numéro vert a été remis dans le cadre d'échanges entre une équipe conjointe de la mission onusienne FARDC et les retournés de ce village situé à 18 km à l'ouest de Bounia. Ces échanges ont été organisés pour renforcer les différents mécanismes de protection des civils dans la zone et revitaliser la collaboration avec la MONUSCO ainsi qu'avec les forces de défense et de sécurité. Des fournitures de bureaux et kits informatiques remis au Conseil national de la jeunesse, dont du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, remis lundi 9 mai dernier, dans le cadre du partenariat privilégié entre la jeunesse congolaise et cette agence des Nations Unies. C'est le ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, Yves Bunkulu, qui a réceptionné ce don des mains du représentant de l'UNFPA en RDC, Dr. Eugène Kongyu. Autre nouvelle, l'UNESCO s'engage à promouvoir des relations professionnelles harmonieuses entre la presse et les forces de l'ordre, ce qui justifie l'organisation la semaine dernière par cette agence de l'ONU d'une formation destinée aux policiers et aux journalistes de Bukavu. L'objectif était que les agents de l'ordre s'imprègnent du rôle et de la fonction des hommes et des femmes de médias et pour ces derniers de comprendre les limites de la liberté de la presse dans des situations d'exception. Enfin, une autre formation, c'est celle suivie mercredi dernier à Kinshasa par une centaine d'acteurs communautaires de la capitale sur la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Une session organisée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD dans le cadre du projet Justice, Autonomisation et Dignité des Femmes et Jeunes Filles, JADE en sigle. L'objectif de cette formation était notamment de renforcer les capacités des chefs de services communaux sur les techniques de vulgarisation de la stratégie nationale révisée de lutte contre les violences basées sur le genre.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le magazine de Nations Unies revient sur l'entretien que Monique Cathy Daniel, administratrice chargée de protection au HCR sous délégation du Kalemi dans les Tanganyika, a accordé à Radio Kapi. Cet entretien réalisé avec Jean Gandou a porté sur la protection de l'enfant. Suivez.
Monique Cathy Daniel, bonjour.
Bonjour.
Mais qu'est-ce qui explique l'organisation de cet atelier qui porte sur protection de l'enfant?
Le HCR a non seulement les réfugiés, les demandeurs d'asile, les personnes déplacées internes, les rapatriés et toutes les personnes à risque d'apatridie comme personnes relevant de sa compétence. Et dans toutes ces catégories de personnes, nous avons les enfants. Et il a été prouvé que à travers le monde, la population d'enfants réfugiés représente à peu près 51%. Dans notre zone d'opération, ils sont autour de 52%. Un peu au-dessus de la moyenne mondiale. Donc, il s'agit là de mettre un accent sur la protection de cette catégorie de personnes qui est souvent laissée pour compte, parce qu'on dit on a protégé le papa, on pense par ricochet qu'on a protégé l'enfant, alors que ce n'est pas vrai. L'enfant est un être humain vraiment dans le sens clair du terme, qui a en cela ses droits qui lui sont propres. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il était important qu'on puisse le rappeler.
Pourquoi mettre l'accent sur la protection de l'enfant quand on sait que ce qui touche à l'enfant est très complexe en fait?
C'est justement pour rappeler aux parents que le fait de protéger le parent ne protège pas forcément les enfants, parce que nous avons les enfants abandonnés, nous avons les enfants à risque de négligence, qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas les actes de naissance. Tous ces enfants-là sont des enfants à risque pour lesquels il faut pouvoir adresser la problématique de leur protection, parce que ce sont des risques graves à leurs droits, les droits qui sont consacrés par la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant.
Et les enfants dont vous parlez, ce sont les enfants qui sont dans des maisons ou ceux-là qui se trouvent abandonnés par leur famille et qui errent ça et là?
La protection que nous avons mise en avant ici, il s'agit de la protection des enfants à risque de négligence, d'exploitation, d'abus et ayant été victimes de toute autre violation de leurs droits. C'est-à-dire qu'on a les enfants réfugiés qui sont arrivés avec un seul parent. On les appelle les enfants séparés. Il y a les enfants qui sont arrivés sans aucun parent. On les appelle les enfants non accompagnés. Et lorsqu'on a soit les enfants séparés, soit les enfants non accompagnés, et toutes les autres catégories d'enfants qui sont à risque de protection, sont des enfants pour lesquels il faut pouvoir déterminer leur intérêt supérieur. Parce que l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est quelque chose de primordial. Et cela est rappelé dans la loi congolaise portant protection de l'enfant, que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris au sens premier, vraiment comme un élément primordial chaque fois qu'il y va de la protection de l'enfant. Lorsqu'on parle de la protection de l'enfant, il faut se rassurer que son intérêt supérieur est garanti.
Et comment protéger un enfant?
Alors, on protège un enfant en s'assurant qu'il a accès à tous les services sociaux de base. Les services sociaux de base s'entendant par l'accès aux soins de santé, l'accès à l'éducation, l'accès à une identité, c'est repris dans la loi, c'est repris dans la convention. Que l'enfant peut jouir de son développement normal, que l'enfant peut avoir accès au jeu, parce que tout cela participe de son développement et de son épanouissement. Que l'enfant a droit à la parole, que l'enfant a son mot à dire dans toutes les décisions qui pourront avoir une incidence sur sa vie. C'est aussi ça. Et que toutes les activités qui sont menées concourent à ce qu'il n'y ait pas de discrimination, le principe de non-discrimination, que rien ne soit fait pour que l'enfant soit victime de nuisance. Donc il y a un autre principe fondamental qui est le principe de ne pas nuire. Il y a le principe de développement et suivi pour l'enfant. Donc, il doit avoir être dans un environnement sûr, lui permettant un développement et un épanouissement harmonieux. L'enfant doit participer. La participation, c'est qu'on donne la parole à l'enfant, qu'on l'écoute, qu'on prend le temps de collecter tout ce qu'il sort de sa pensée, de sa tête.
Monique Cathy Daniel, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Le commissariat urbain de la police nationale congolaise, PNC, de la ville de Beni, sera bientôt doté d'un nouveau bâtiment administratif. L'ouvrage sera construit grâce à un financement de la MONUSCO. La cérémonie de pose de la première pierre du projet a eu lieu mardi 10 mai, en présence de plusieurs officiers de la PNC et du chef de la composante police de la mission onusienne, UNPOL. Les détails du projet avec André Kitenge.
D'un coût de plus de 48 000 dollars américains, ce projet de construction entre dans le cadre de la mise en œuvre du mandat de la composante police de la MONUSCO, notamment dans son volet d'appui à la stabilisation, mais aussi au renforcement des institutions étatiques en République démocratique du Congo. Pour le commissaire de la police de la MONUSCO, cette intervention est une suite d'autres actions de la MONUSCO en faveur de la police nationale congolaise. Le général de brigade Maudit Bereté.
Nous sommes en train d'appuyer la PNC pour l'amélioration du cadre de travail à travers l'élaboration et l'adoption des textes qui leur permettent d'encadrer leur travail, mais aussi à la demande du commissariat général, nous garderons à cœur leur souci d'améliorer l'infrastructure.
Le maire de la ville de Beni, quant à lui, n'a pas caché sa satisfaction, celle de voir la MONUSCO accompagner la police nationale congolaise dans l'amélioration de ses conditions de travail. Commissaire supérieur principal Narcisse Muteba Kachalé.
La MONUSCO est en train de nous accompagner, ça fait beaucoup d'années. Elle est venue vers nous pour construire ces beaux bâtiments qui va abriter l'état-major de la police nationale congolaise ville de Beni. Pour moi, je n'ai que les sentiments de joie.
Ce projet de construction de ce nouveau bâtiment qui aura 9 bureaux sera exécuté par l'entreprise de construction Office du bâtisseur congolais pour une durée de 3 mois. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Quelques avocats de Kinshasa avaient pris part il y a 2 semaines à une matinée de sensibilisation sur la traite des personnes. Quel était l'objectif? La question a été posée au conseiller technique de l'OIM RDC, Fislien Elitelo. Suivez sa réponse.
La traite des personnes, c'est quand même l'une des formes les plus graves de violation des droits de la personne dans le monde entier. En RDC, on a beaucoup de cas. Vous imaginez qu'un avocat ne sache pas ce qu'est la traite des personnes? Celui qui est placé pour défendre les victimes ignore cette violation grave des droits de la personne. C'est important qu'à Kinshasa, tous les avocats soient sensibilisés pour qu'ils puissent défendre des victimes qui sont d'ailleurs les plus vulnérables. Ce sont principalement les femmes et les enfants, donc les veuves et les orphelins, que les avocats sont censés défendre, qui sont le plus souvent victimes de la traite. Donc l'OIM est fier d'accompagner l'agence pour que les avocats soient sensibilisés, pour qu'ils puissent défendre les victimes au niveau des barreaux, au niveau des tribunaux, surtout que nous, à l'OIM, on veut que ça soit une assistance holistique. Et de cette assistance-là, nous avons un financement du gouvernement américain par USAID qui insiste aussi sur le volet assistance judiciaire. Donc les avocats sensibilisés aujourd'hui pourront accompagner les victimes de traite. Nous, à l'OIM, on va les appuyer, on va mettre les moyens à leur disposition pour qu'ils puissent faire ce travail, pour que l'état du droit en RDC soit réellement renforcé.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Retenez ces deux dates, sauf 17 mai, journée mondiale de télécommunication et de la société de l'information, et le 20 mai, journée mondiale des abeilles. La fin de cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site www.radiocapi.net, Radio Capi en un seul mot. Merci de votre attention. Merci également à Bob Landou qui en a assuré la coordination technique. Moi, c'est Babel Pongomastimango. C'est avec un grand plaisir que je vous ai présenté cette émission produite, coordonnée et réalisée par Honoré Missinga Kalala. Restez à l'écoute de la Radio de la Paix pour la suite de nos programmes. À toute l'équipe du magazine des Nations Unies vous fixe un nouveau rendez-vous dimanche au prochain. Portez-vous bien.